Et nous allons débuter une nouvelle semaine ensemble à la découverte d'un site un peu emblématique du Limousin que vous avez sans doute croisé très régulièrement si vous passez par Limoges. Vous partez de Limoges, vous revenez de Limoges, et bien vous allez longer la station de traitement de l'eau potable que nous allons découvrir très concrètement. Nous allons parcourir les différents services tout au long de cette semaine en compagnie de Jean-Luc Vielsèche qui est responsable de cette station traitement d'eau potable ici à Limoges. Alors avant d'expliquer évidemment, parce que la finalité c'est de comprendre ce qu'il y a derrière ce robinet d'eau que l'on tourne à la maison, qui nous paraît d'une simplicité enfantine, mais il y a beaucoup de choses à gérer de votre côté avant. D'abord un petit mot sur cette régie, puisque on parle de régie.
Effectivement, donc la régie des eaux est relativement ancienne. On trouve les premières traces à la fin du XVIIIe siècle, et donc c'est une régie municipale qui est gérée donc par la ville de Limoges, et donc c'est un service donc qui regroupe à peu près la 90 personnes. Avec une trentaine de personnes pour la station et les différents services, et une trentaine de personnes sur le réseau d'eau potable. Donc la station principale, effectivement, donc c'est là où s'effectue donc tout le traitement. Il y a aussi des gros stocks d'eau potable, hein, puisqu'on a quand même la 20 000 mètres cubes d'eau potable ici en stock, prêt donc aux besoins. Et puis c'est surtout un patrimoine très riche qui part là depuis Saint-Léger-la-Montagne sur les eaux brutes, jusque maintenant depuis peu jusqu'à Saint-Junien-la-Rochoire.
Alors, on va expliquer effectivement ce cheminement, parce que justement, effectivement, ce n'est pas cette régie, ce n'est pas que ce site, c'est tout un tas de choses sur différentes communes autour de nous. Ça va donc de Saint-Léger-la-Montagne, qui est notamment ce barrage du Mazo, où l'on va venir pomper l'eau, mais ce n'est pas le seul site. Hein.
Alors oui, alors pomper, non, justement, l'eau descend plutôt là de façon la gravitaire. Et donc, en fait, historiquement, donc la ville avait fait le choix de positionner la station de traitement d'eau sur le haut de Limoges, et pour que l'eau vienne de façon la gravitaire, on va chercher l'eau sur les premier contrefort du massif des monts Ladan-Bazac, et donc justement la plus grosse ressource, donc le barrage du Mazo. Donc c'est un barrage important, hein, qui représente 6,5 millions de mètres cubes. C'est un barrage en béton multivoûte, hein, un barrage de plus de 32 mètres de haut, et donc effectivement il constitue à lui seul plus de la moitié de notre stock d'eau brute pour faire de l'eau potable, et ce qui représente à peu près la moitié de l'année. Alors il n'est pas tout seul, on a également d'autres barrages. On a les barrages de Gouillet et de La Crouzille qui sont sur la commune de Saint-Sylvestre. Et puis les barrages de Bonne 1 et de Bonne 2 qui sont donc à la limite entre les communes de Limoges, Bonnac-la-Côte et Riac-Rancon. Tous ces barrages constituent un volume en cumul, hein, de près de 11 millions de mètres cubes. Et on a un besoin pour l'ensemble de nos usagers d'à peu près 13 millions de mètres cubes à l'année. Donc on voit que on a quasiment une petite année en stock dans nos réserves lorsque tout est plein, ce qui est très confortable.
Après, alors en termes de quantité, c'est vrai, quand on dit 11 millions de mètres cubes, c'est un chiffre qui, je pense, ne parle même pas, on ne se rend même pas compte. Une consommation moyenne, par exemple, sur un foyer, ça donne quoi pour comparer un peu par rapport à ces 11 millions-là?
Alors, c'est variable selon la composition du foyer, bien entendu, mais on a coutume de dire que on consomme à peu près 120 mètres cubes à l'année pour un foyer de 4 personnes en zone pavillonnaire, on va dire. Voilà. Après, si on est en appartement, on a des besoins un peu moindres, et selon la composition de la famille, voilà. Mais on a coutume de dire, voilà, que c'est entre 80 et 120 mètres cubes par an pour un foyer.
Mais on est nombreux, donc effectivement, il faut un petit peu de stock. On a parlé de régie municipale, ça veut dire que ça peut aussi fonctionner avec des sociétés privées?
Oui, d'autres collectivités ont fait le choix de la délégation, ce qu'on appelle de la délégation ou du contrat d'exploitation, c'est-à-dire ne pas s'occuper soi-même de ce service d'eau, puisque ça représente quand même des efforts, faut du personnel, des compétences particulières, et donc certaines communes effectivement préfèrent faire le choix de déléguer, et donc il y a un certain nombre en France, de sociétés spécialisées, les plus connues étant la SOR, Veolia, qui effectivement occupent ça, ces services. Oui.
Donc ça veut dire forcément que l'intérêt premier d'une régie municipale, c'est le tarif au bout de la chaîne pour le consommateur?
Alors normalement oui, si c'est bien géré, oui. Effectivement, on a la chance, nous, les régies, c'est ce qu'on appelle une concession sans limite de temps. C'est-à-dire que tous les choix que peut faire la régie donc sont des choix généralement portés dans la durée, et donc des choix durables. Et donc c'est l'avantage par rapport à un contrat de droit privé dans lequel la rentabilité est au rendez-vous. Et donc les investissements sont forcément la limitée. Alors que dans une régie, on peut faire le choix d'amortir les investissements sur des durées très longues, et donc, in fine, faire des choix qui sont très stratégiques sans impacter le coût de l'eau. Et donc, une régie bien gérée permet normalement d'avoir une bonne maîtrise des coûts.
Voilà, et on le sait, le prix de l'eau de Limoges, on est assez bien placé, a priori, on a largement parlé. Un mot pour finir, l'eau du robinet, il y a encore des réfractaires, vous avez encore besoin de convaincre, on a l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement commun, et il y a encore des gens qui préfèrent l'eau en bouteille, donc il y a encore du travail à faire de ce côté-là ?
Oui, en effet, alors nous, Limoges, on est plutôt bien perçu, hein. On fait des enquêtes de satisfaction la régulière, on a des taux de satisfaction qui sont de plus de 85% et qui frôlent les 90% dans certains domaines, donc on n'a pas de problème particulier, mais d'une manière générale, et c'est vrai en France, que encore un certain nombre de concitoyens craignent l'eau du robinet, ont peur, etc. Il faut dire qu'il y a un lobby assez fort des minéraliers, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, donc ces fameuses entreprises qui mettent de l'eau en bouteille et qui effectivement font ce qu'elles peuvent pour discréditer la valeur de la qualité d'eau potable, alors que à l'exception de peut-être quelques cas particuliers en France, mais l'eau potable en France est d'une très très bonne qualité.
Bon, et pour ceux qui se posent des questions sur comment elle est gérée, eh ben on va voir ça tout au long de cette semaine. Derrière, on a un joli cheminement dessiné, mais nous on va carrément aller voir concrètement comment ça se passe, et ce sera demain pour commencer l'aventure. Et c'est notre deuxième rendez-vous cette semaine à la découverte de la station de traitement de l'eau potable de Limoges. Nous sommes toujours avec Jean-Luc Vielsèche, qui est le responsable de cette station installée sur le quartier de la Batide à Limoges. Vous ne pouvez pas manquer ce bâtiment effectivement lorsque vous vous dirigez vers l'Avin ou que vous sortez de l'Avin. On a présenté un petit peu le site, cette régie municipale, on l'expliquait hier. On va peut-être maintenant concrètement expliquer à nos auditeurs comment se passe le traitement de l'eau, hein, tout simplement, son captage jusqu'à son traitement et jusqu'à l'arrivée au robinet du consommateur. Il y a un long parcours et ça commence dans différentes retenues, on en a parlé, on peut les reciter, il y a plusieurs points qui permettent d'alimenter donc l'eau qui va être traitée ici.
Effectivement, donc on a donc plusieurs retenues, donc la plus grosse c'est le barrage du Mazot à Saint-Léger-la-Montagne. Ensuite, on a les retenues de Gouillet-Crouzille sur Saint-Sylvestre. Et puis pour finir, donc les retenues de Bonin et de Bonne 2, donc à la jonction donc des communes de Limoges, Bonac-la-Côte et La Ria-Crampon. En fait, toutes ces retenues sont maillées par un réseau d'adduction, donc ce sont des grosses canalisations qui permettent d'amener l'eau depuis ces barrages jusqu'à la station de traitement, donc à l'entrée de Limoges. Alors c'est des gros tuyaux, hein, en fait on est en 800 mm, donc pratiquement là sur un mètre de diamètre. Pour le plus loin d'entre eux, donc le barrage du Mazot qui est situé à peu près à 30 km. Donc en tout, on a plus de 80 km de tuyaux avec des interconnexions, hein, pour le secours. Donc chaque retenue a un tuyau qui lui est propre et on peut très bien donc bypasser l'eau d'une retenue, l'envoyer sur un autre tuyau pour pallier donc à des problèmes de casse.
Alors quand on dit 30 km par exemple entre le Mazot et ici, ça se fait pas aussi vite qu'en voiture, je suppose ?
Alors non, effectivement, l'eau dans les tuyaux circule beaucoup moins vite que sur la route en voiture.
Et pourtant, il n'y a pas de feu.
Voilà. En réalité, on a coutume de dimensionner les tuyaux pour que l'eau dans les tuyaux se déplace autour de 1 à 1,5 mètres seconde. Hein, donc c'est beaucoup moins rapide que les voitures. Et donc globalement, depuis Saint-Léger-la-Montagne, on a à peu près au moins 8 heures d'acheminement. Et donc c'est ce qui est intéressant, et donc c'est aussi pour ça, si on parle un peu qualité, qu'on met en place donc des stations d'alerte sur les barrages pour vérifier donc la qualité d'eau brute, hein, pas d'eau potable, mais donc d'eau brute, et ça nous permet de surveiller ces eaux-là, et en cas d'événement ou en cas de problème sur la qualité d'eau brute, donc ça nous laisse largement le temps justement de monter sur les barrages et de pouvoir éventuellement la changer de type de ressource.
Alors justement, puisqu'on parle de ce barrage, on peut parler de travaux, hein, parce que ça demande un entretien aussi tout ça, et là on en a eu la démonstration avec ce barrage du Mazot.
Ouais, alors effectivement, on a cette année 2016, c'est une année très particulière pour nous, puisque pour la première fois depuis maintenant 30 ans, on a vidé le barrage du Mazot. Alors c'est pas une petite affaire, hein, c'est un barrage qui fait 6,5 millions de mètres cubes. On ne vidange pas un barrage comme celui-ci comme ça, il faut des autorisations, une autorisation préfectorale. Et puis, c'est tout un challenge. Et alors, effectivement, il faut l'entretenir. C'est un barrage béton multivoûte, mais il y a toujours des micro-fissures qui se créent. Il y a donc il est nécessaire, une fois de temps en temps, de pouvoir inspecter les ouvrages vides et de procéder donc aux réparations qui s'imposent.
Ah, concrètement, comment ça se passe? Ce sont des 6,5 millions de litres d'eau. Qu'est-ce qu'on en fait? Ils sont partis où? On attend que tout soit écoulé jusqu'ici et après on avise?
Et bien, en fait, c'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on évite de gaspiller l'eau. Hein. L'eau est un bien précieux. Donc, on l'a abaissé autant qu'on le pouvait, donc en consommant l'eau hein, pour en faire de l'eau potable. Et il y a tout à fait que la fin du barrage, c'est-à-dire ce qu'on appelle le culot, c'est-à-dire le fond hein, qui représente entre 500 000 et 1 million de mètres cubes, qu'on a rendu à la rivière finalement. Et une fois vide, après, là, on a entaqué des travaux. Alors la particularité, c'est que ce barrage fait quand même 30 mètres de haut et que pour aller le réparer, eh bien, c'est difficile d'accès. Et donc on a fait des travaux sur cordes. Donc ce sont des cordistes. Donc il y avait, selon les périodes, entre 5 et une quinzaine d'agents pendus sur des cordes qui donc procédaient donc aux réparations là, de l'ouvrage.
Donc ça va, on ne fait pas ça tous les 6 mois, heureusement.
Non, donc là, ça faisait 30 ans. Raisonnablement, sur ce type d'ouvrage, il faut compter à peu près une vidange tous les 20 années pour vérifier l'inspection et faire les petites reprises qui sont nécessaires.
Donc là, on parle du barrage, mais les canalisations, elles aussi, ça nécessite des entretiens, des vérifications régulières?
Alors non, les canalisations, ce sont des canalisations donc en fonte ductile, ce qu'on appelle la fonte ductile. Donc c'est de la fonte qui est relativement épaisse, qui est revêtue côté intérieur avec un voile de ciment pour protéger la canalisation de la corrosion. Et côté extérieur, donc, il y a tout un tas de revêtements pour éviter aussi la corrosion. Et donc, sur ces tuyaux-là, on a des durées de vie qui sont supérieures à plus de 100 années.
Donc après, alors, ça veut dire que sur ces retenues, avant de parler dans notre prochain rendez-vous de ce qui se passe maintenant ici sur la station, il y a des contrôles quoi, de niveau régulièrement? On parle des périodes de sécheresse, on parle de fortes pluies, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont surveillées sur le site?
Oui, on est une équipe qui est dédiée à ça. En fait, on a 4 agents qui sont basés justement sur le site de la Crouzille à Saint-Sylvestre. Et ces 4 agents donc, ont vocation, 7 jours sur 7, hein, je tiens à le préciser, de faire une inspection sur chacun de ces barrages, vérifier évidemment que déjà la qualité d'eau, vérifier l'intégrité de l'ouvrage, hein, qu'il n'y ait pas d'événements, d'éléments qui soient produits. Et puis, on les surveille, on en fait de ce qu'on appelle de l'auscultation, un petit peu comme un médecin soigne un malade. Et ben, donc, nous, on surveille nos barrages et donc on a un certain nombre de mesures avec des appareils hein, qui sont positionnés sur les barrages et donc nous permettent de vérifier que le comportement d'ouvrage est sain et qu'il n'y a pas de désordre.
Et donc là, on est à côté, on entend un petit peu le bruit, hein, c'est ce visuel, cette cascade que l'on peut apercevoir hein, lorsque l'on passe à proximité du bâtiment.
Donc en fait, c'est une eau qui tourne en boucle, hein, ça c'est comme une fontaine dans les parcs et jardins. Il faut savoir que la station donc, a été éditée dans les années 1967 à 1970 et qu'à l'époque, elles ont été construites par la société De Grémont. Et à l'époque, c'était de bon ton, quand on faisait ce type d'usine, d'avoir un visuel fort. Et donc chaque station a une particularité, et donc nous ici à Limoges, eh ben, c'est cette cascade avec ces arches autour de la cascade qui sont une architecture typique de l'époque des années 70 et qui mettait un peu l'accent sur la modernité de la station.
De l'époque.
De l'époque, évidemment, c'est un petit peu vieilli.
Bon, on va voir que maintenant les choses se sont bien modernisées à l'intérieur également. On va commencer à évoquer le processus de traitement de cette eau hein, pour aller jusqu'au robinet. On voit ça ensemble à partir de demain. Et c'est notre troisième rendez-vous de cette semaine consacré à la station de traitement de l'eau potable à Limoges. Nous sommes, je le rappelle, installés dans le quartier de la Batide, dans ce bâtiment avec Jean-Luc Vialsèche, qui est le responsable de cette station de traitement de l'eau potable. Et on va justement ensemble, Jean-Luc, aller découvrir concrètement les différentes phases de traitement de l'eau pour qu'elle soit potable pour le consommateur. Et justement, dans le hall d'entrée, il y a un petit rappel très visuel qui commence à détailler un petit peu les choses avant d'aller les voir concrètement.
Oui, alors avant d'entrer dans le détail, il faut bien comprendre que les eaux brutes, les eaux naturelles, nécessitent effectivement un traitement pour les rendre potables. La potabilité, en fait, c'est pas des eaux stériles, hein, ce sont des eaux simplement dans lesquelles donc on a enlevé tous les éléments qui peuvent nuire à la santé. Donc une eau potable est une eau qui peut être bue en quantité et sans danger pour tout le monde, y compris les personnes fragiles, les jeunes enfants, les bébés, les personnes âgées. Donc une eau potable, c'est ça la définition. C'est important de le dire.
Contrairement à ce qui est écrit sur certaines bouteilles, par exemple, voilà, l'eau du robinet est potable pour tout le monde.
Voilà, exactement. Alors que dans les eaux en bouteille, les eaux de source sont potables, mais les eaux minérales ne sont pas forcément potables, loin de là, et elles bénéficient, pour être mises sur le marché, d'une autorisation, au même titre qu'un médicament. Donc si on est amené à boire des eaux minérales, plutôt mixer les types d'eau plutôt que de boire toujours la même.
Mais restons sur notre eau potable du robinet que l'on va donc découvrir en détail sur son traitement. Donc ça commence par ces eaux brutes qui donc arrivent ici.
Oui, alors donc la première des étapes qu'on va s'attacher à faire, donc c'est enlever les particules et la couleur là de l'eau. Et donc pour ça, c'est ce qu'on appelle la clarification. Donc c'est l'étape qui permet de clarifier l'eau, de la rendre claire, de la transparente. Et donc pour ce faire, donc on utilise des phénomènes naturels qui est la décantation. Et pour aider à ça, puisque ça nécessiterait quand même beaucoup de place et des ouvrages importants, on utilise des coagulants qui ont des charges positives et donc qui permettent de déstabiliser la matière qui est contenue là dans l'eau, faire en sorte qu'elle coagule avec des flocs et que ces flocs-là puissent décanter. Et ensuite, on filtre sur du sable, hein, c'est du sable de rivière. On a des grands ouvrages, on va le voir tout à l'heure. Et donc, ça permet donc de filtrer tous ces éléments pour avoir une eau qui est cristalline. Et alors, comme on est en Limousin, on a la particularité d'être sur des sols granitiques. Et donc, les eaux de pluie qui tombent sur le granit n'arrivent pas à se minéraliser suffisamment. Et donc, les eaux en Limousin sont acides. Et donc, il est nécessaire pour la potabiliser donc de la minéraliser. Donc pour ce faire, on utilise de la chaux naturelle qui est extraite en carrière, qui est amenée là, et donc on injecte du lait de chaux à l'intérieur de l'eau pour la reminéraliser et lui donner du calcium. Et après, pour la désinfecter, nous on utilise ce qu'on appelle de l'ozone, qu'on produit sur place, et cette ozone donc est un gaz très puissant, un oxydant très puissant, et donc permet donc de désinfecter l'eau. Depuis l'année dernière, on utilise également du rayonnement UV avec des lampes. Donc, ce sont des réacteurs UV qui permettent donc de, par radiation, d'émettre donc une longueur d'onde qui perce les membranes, ce qu'on appelle à l'ADN, à des cellules, et donc casse les bactéries, virus et autres. Nous, on a cette chance d'avoir une eau naturelle de bonne qualité, mais on arrive donc à l'améliorer sensiblement, faire une eau potable qui soit de bonne qualité gustative. Et donc, pour ce faire, on utilise le charbon actif en grain. Et le charbon a la faculté d'absorber les molécules, et notamment les molécules qui sont responsables du goût et là des odeurs. Des fois, il y a des eaux qui ont un goût de terre, un goût... voilà. Le charbon permet d'enlever ça.
Bon, alors, passons à la phase de visite. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au tout début de ces opérations de traitement de l'eau. Alors, on vient de rentrer dans une salle qui concerne les toutes premières opérations. Donc, on voit l'eau qui arrive donc par ces gros tuyaux, effectivement, bien impressionnants, donc de l'extérieur. Et on a des gros batteurs électriques un peu plus gros qu'à la maison pour les premières opérations de traitement ici.
Ben oui, c'est une étape qui est capitale. C'est ce qu'on appelle là, les pré-traitements. Et donc, effectivement, c'est là où on injecte notamment donc pour la minéralisation, donc la chaux. Et donc, pour mélanger ça, effectivement, donc on a des gros agitateurs, hein, c'est comme pour faire un gros gâteau, mais c'est beaucoup plus gros. Ensuite, dans la deuxième bâche qui est ici, donc là, on va injecter donc le chlorophylle, et le fameux coagulant permet de coaguler les éléments entre eux pour les faire décanter. Et après, on va aller dans le bassin qui est juste à côté pour décanter.
Alors, on se rend pas compte effectivement que l'eau est sous nos pieds. Alors, on le voit là puisqu'on a une petite partie vitrée, donc on se rend effectivement compte que l'eau passe sous nos pieds. On est sur une profondeur de combien?
Combien? 4,50 m.
Ah, quand même.
Ouais. D'accord. Ouais. Ça fait une bonne piscine. Ouais.
On va rester au-dessus de la vitre, on préfère. Donc ça, c'est les premières étapes. Et ensuite, ça va partir à la décantation. Ça va se passer juste derrière.
Ouais, c'est deux énormes bassins. C'est une étape qui est capitale pour la potabilisation.
Et plus calme, a priori, puisqu'on est là pour la reposer.
Oui, voilà. Voilà.
Alors allons voir ce que ça donne de l'autre côté. Alors, on vient de changer d'ambiance, effectivement, c'est plus calme, c'est plus reposant, et l'eau donc est en train de décanter, là, très concrètement. Alors, on peut le voir, effectivement, puisque vous êtes équipé d'une petite lampe qui permet, puisque là, quand on le regarde à l'œil nu, effectivement, on ne se rend compte de rien, on voit une eau un peu sombre, mais lorsque l'on agite la lampe au fond de l'eau, on aperçoit ces particules que vous avez donc créées, entre guillemets, pour leur permettre de se décanter, de plonger un petit peu au fond du bassin.
Oui, alors, effectivement, on est dans les décanteurs, alors ce sont des très grands ouvrages, vous le remarquez. Font 2000 mètres cubes chacun, des ouvrages profonds de 4,50 m, et à l'intérieur desquels donc, les flocs qu'on a créés donc, avec les réactifs donc, vont pouvoir coaguler tous les éléments qui sont responsables de la couleur de l'eau, et ces éléments-là donc, vont décanter au fond de l'ouvrage, et pour récupérer en surface une eau qui est décantée, qui est clarifiée.
Aspirée effectivement par ces grosses conduites que l'on voit percer.
Voilà, donc l'eau arrive par le fond de l'ouvrage, et elle est récupérée en surface. Donc ces tuyaux percés que, comme vous appelez, en fait, nous on appelle ça des clarinettes.
D'accord.
Un petit peu comme en musique. Ça permet, si vous voulez, de répartir sur l'ensemble de la surface de l'eau pour avoir des vitesses d'eau qui sont très faibles. Il faut au contraire là que l'eau se repose et donc permette une décantation.
C'est ça, parce qu'on n'a pas l'impression que l'eau est aspirée, donc elle est quand même aspirée en permanence, mais à un rythme très faible.
Il y a des mouvements d'eau, effectivement, hein, puisque l'eau passe en continu, sans que vous vous en rendiez compte, mais là, tout de suite, on passe 1500 m3 par heure.
Ah, effectivement, c'est voilà. Une bonne fuite.
Mais vu la taille des ouvrages, ça fait une vitesse de transfert qui est très très lente, et donc permet aux éléments de décanter et de récupérer en surface donc une eau qui est clarifiée.
Et donc ces éléments qui se décantent, ça fait quoi? Une espèce de boue qui va se mettre au fond? Qu'est-ce qu'on en fait du coup?
Cette boue, donc, elle s'accumule sur à peu près là, 2 mètres de hauteur. Et ensuite, donc, le trop-plein de ce boue donc, est extrait hein, par des extractions. Et on envoie ça donc, au réseau d'assainissement. Et donc bah, ensuite, c'est retraité par la station d'épuration.
Ensuite, on l'a dit, donc, filtre à sable, ça peut paraître bizarre de se dire on fait attention à l'eau, on lui enlève tout, puis on va le faire passer dans le sable.
Ah non, le sable, au contraire, c'est donc le sable, c'est minéral, c'est purement minéral. Donc on est sur du sable de rivière qui est roulé, qui a une granulométrie bien précise, puisqu'on est à 0,95 mm, c'est-à-dire un petit peu moins d'un millimètre. Et donc on a à peu près un mètre de sable. Et donc l'eau va traverser de haut en bas donc ce mètre de sable. Et en traversant ce sable, bah, l'eau va se filtrer et les éléments grossiers qui restent encore un petit peu là dans l'eau vont pouvoir être retenus en surface.
Ouais, on parlera dans notre prochain rendez-vous des contrôles, hein, parce qu'évidemment c'est ô combien important ici et vous en faites beaucoup, 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 c'est ce que l'on verra. Et puis on parlera demain de la suite de ce traitement, on reparlera de l'ozone, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. On verra ça dans notre quatrième partie, ce sera donc demain. Et notre quatrième rendez-vous de cette semaine à la découverte de la station de traitement de l'eau potable à Limoges. Nous décryptons ce qu'il se passe avant que l'eau ne termine dans vos verres, à l'autre bout de votre robinet, et ce avec Jean-Luc Vielsèche, qui est le responsable de cette station de traitement de l'eau potable installée dans le quartier de la Bâtide à Limoges. On était sur les premières phases de traitement dans le rendez-vous d'hier, on a parlé de la décantation, on a commencé à parler de ces filtres à sable par lesquels va passer l'eau pour continuer d'être filtrée encore et toujours. Là, justement, on est face à ces filtres à sable. L'eau donc arrive là face à nous et ensuite va descendre tout doucement vers le sol.
Oui, alors on a des filtres à sable. Ce sont des filtres qui font 50 mètres carrés. Une hauteur d'environ 1 mètre de sable à l'intérieur, d'un sable donc qui est très fin, qui fait un petit peu moins de 1 mm. Et donc l'eau qu'on aperçoit ici donc, va percoler à travers ce sable pour être filtrée. Et à la sortie du filtre, l'eau donc est parfaitement claire. Et ces filtres donc s'encrassent hein, puisqu'ils retiennent un certain nombre de particules qui sont indésirables, et donc on les rétro-lave une fois par jour. Ils sont tous rétro-lavés, donc à contre-courant, et donc pour les décrasser, et ensuite ils reprennent leur fonction.
Alors, c'est un sable particulier, je vois dans le bac d'à côté, donc qui ne contient pas d'eau, c'est un sable qui est quasiment noir, c'est un sable précis.
Alors, c'est du sable de rivière qui est roulé. Alors, celui-ci est légèrement coloré parce qu'en fait, on incorpore dedans une dose de ce qu'on appelle du sable manganifère. Il est noir, un petit peu comme du charbon, il est plus fin, donc il améliore la qualité de filtration. Et surtout, il permet par catalyse de pouvoir éliminer le manganèse, si tant est qu'il y en ait. Alors le manganèse n'a rien de danger pour la santé, hein, ça ne pose aucun problème. Du reste, il n'est même pas dans les critères de potabilité. S'il n'est pas dangereux pour la santé, il a l'inconvénient de donner une couleur un petit peu noire à l'eau. Et donc on préfère l'enlever.
Voilà, donc en tous les cas pour ces petites infos. Alors là, on va quitter les filtres à sable. Et puis les prochaines étapes, on en a parlé hier, c'est donc l'injection d'ozone.
Oui, alors on va diriger donc vers le générateur d'ozone qui sert à la désinfection. L'avantage qu'il a, c'est qu'il ne génère pas de sous-produits. Contrairement par exemple au chlore, qui lui peut générer des sous-produits et notamment des chloramines qui sont responsables du goût chloré et de l'odeur surtout. En utilisant l'ozone, on n'a pas ces problématiques-là. On a à la fois un gaz donc qui est extrêmement puissant et donc qui a des capacités désinfectantes très très importantes et pas les problèmes de sous-produits. Voilà.
Il travaille ni vu ni connu. On va aller voir ce que ça donne. Bon, on voit qu'il travaille ni vu ni connu, mais pas très discrètement, hein, cet appareil donc qui est à côté de nous. Alors, il y a un petit panneau « Attention, danger électrique », c'est rien de le dire. Hein.
Oui, donc là, on est effectivement en face du générateur d'ozone. C'est un appareil qui permet de fabriquer l'ozone à partir de l'air. Hein. On prend de l'air ambiant, tout simplement, qu'on comprime. On l'assèche, on enlève l'humidité et on le fait passer à travers le générateur. Et dans le générateur, donc, ce qu'on aperçoit à l'intérieur, là, les arcs électriques, c'est parce qu'on fait une différence de potentiel de 8000 volts. Et cet arc électrique, dans de l'air sec, va entrechoquer les molécules d'oxygène pour en fabriquer donc la molécule O3, qui est la molécule d'azote. Et ensuite, ce gaz est récupéré donc par les tuyaux et va être injecté dans l'eau.
Voilà pour ce travail. Donc, on va laisser travailler la bête, hein, parce que bon, visiblement, on la dérange. Et on va s'intéresser ensuite aux étapes suivantes. Alors, on a les filtres à charbon, on en a parlé notamment pour le goût, pour l'odeur. Mais l'autre étape très importante, ce sont les contrôles. Évidemment, on a un chiffre sur le nombre de contrôles qui sont effectués ici.
Alors, les contrôles, en fait, il y en a de trois catégories, là, déjà. Mais si vous voulez un chiffre, je vous en donner un. On fait 50 000 analyses par an sur l'eau. L'eau est le produit alimentaire qui est le plus contrôlé, tout simplement parce que, contrairement aux autres produits alimentaires, l'eau est fabriquée en temps continu, c'est pas des lots. Là, on est dans un process qui est continu, qui ne s'interrompt jamais, on fonctionne 24 heures sur 24, et donc l'eau est en continu. Donc il faut véritablement analyser l'eau à tous les stades de la production, et faire en sorte que dès qu'il y ait la moindre dérive, y compris sur les premières étapes de traitement, on réagisse tout de suite. On ne peut pas attendre que l'eau potable ne soit plus potable avant d'agir. Évidemment, il faut le prendre très en amont. Et donc, ça nous oblige à avoir des systèmes d'autocontrôle, de surveillance interne, avec des capteurs en continu. Donc, on va aller le voir. Je vais vous présenter ça. Vous allez voir, vous risquez d'être surpris.
Allons-y. Donc là, ce sont les machines qui travaillent toute seule, en autonomie, 24 sur 24.
Oui, et donc on a différents stades de traitement, hein, que ce soit donc déjà l'eau brute qui arrive, moindre changement d'eau brute, on est alerté. On a donc ce sont des sondes, hein, ce qu'on appelle les sondes ampérométriques, et qui mesurent un paramètre. Alors, ça peut être le pH, la conductivité, l'oxygène, enfin, tout un tas de mesures. Donc, on mesure à la fois donc les eaux brutes, à la fois donc tout ce qui relève de l'ozone, de la désinfection, pour vérifier que l'eau est bien désinfectée, tout ce qui relève de la clarification et donc des filtres à sable, pour s'assurer que la turbidité, c'est-à-dire que la clarté de l'eau est bien au rendez-vous. Et ensuite, derrière moi, ce que vous apercevez, là, sont des appareils un petit peu plus sophistiqués. Donc là, on n'est plus sur des simples sondes, on est vraiment sur des appareils... des instruments de mesure, hein, qui tournent en permanence, on le voit, avec des micro-pompes doseuses. Et donc là, on est sur des mesures beaucoup plus complexes qui nous mesurent vraiment certains paramètres qui sont essentiels. Et donc là, celui-ci, par exemple, c'est ce qu'on appelle le COT, le carbone organique total, qui va mesurer en fait la quantité de matière organique qui est contenue dans l'eau. Du coup, c'est très intéressant pour nous, puisque moins il reste dans l'eau potable de matière organique dans l'eau, ben mieux elle est épurée, c'est évident. Et donc on a des appareils comme ça, c'est des appareils qui coûtent une petite fortune.
Hein. Limoges donc... fait d'ailleurs partie des endroits en France qui sont les mieux équipés avec ce type de machine.
Ah oui, je pense qu'en France, il y a très très peu de stations qui peuvent se prévaloir là, d'avoir ce type d'appareil. Rien que les trois appareils qui sont devant vous, là, c'est 20 000 euros pièce.
Donc là, on va quitter les machines. Parce que tout n'est pas fait de façon automatisée. L'homme, évidemment, a encore une part d'intervention et ça se fait dans un autre laboratoire ici.
Oui, alors c'est ce qu'on appelle notre petit laboratoire de paillasse. Hein. Donc là, ça ressemble à un vrai laboratoire, mais bon, le nôtre est quand même de taille modeste. Mais on va aller voir ça.
Allons-y. Voilà notre entrée, cette fois-ci, dans le labo, les contrôles de laboratoire. Donc, c'est d'autres phases de test. Qu'est-ce qui est fait ici? Alors, on voit déjà que bah, juste après l'arrivée, il y a des petits tuyaux qui laissent écouler l'eau. On voit bien qu'il y en a une qui a été traitée et l'autre un peu moins.
Ouais, donc on a dans le laboratoire ici, donc vous voyez donc ces différents tuyaux qui arrivent. En fait, ça prélève l'eau à différents stades de traitement. Ça arrive ici dans le laboratoire et comme ça, la laborantine peut prélever et mesurer l'eau à tout moment de la journée sans aller sur le terrain. On a quand même des appareils de paillasse, hein, de fiabilité donc de laboratoire, sur les principaux paramètres et en tous les cas tous les paramètres qui nous permettent de fiabiliser donc la qualité d'eau. Et donc les mesures qu'on fait ici sont complémentaires au laboratoire qu'on a vu en ligne tout à l'heure, qui était fait donc avec les sondes et puis les appareils automatisés. Et donc ça nous permet aussi de corréler la fiabilité des autres appareils.
Et puis les contrôles ne s'arrêtent pas là.
Alors en fait, donc il y a deux niveaux de contrôle. Il y a le contrôle d'état Et il y a ce qu'on appelle donc l'autocontrôle interne ou le plan de surveillance. Alors nous, si on parle du plan de surveillance, il y en a trois niveaux. Donc il y a le niveau, donc le laboratoire, ce qu'on appelle en ligne, donc avec les appareils automatisés. Il y a le petit laboratoire dans lequel on est, donc pour permettre de vérifier un certain nombre là, de mesures. Et puis il y a certaines mesures qu'on ne sait pas faire ici, qui nécessitent des appareils un peu plus sophistiqués et plus complexes. Donc on sous-traite au laboratoire régional des eaux. Voilà, donc ça c'est les trois niveaux de contrôle que nous, exploitants, on décide de faire. Et à cela s'ajoute le contrôle d'État. Et donc ce contrôle, donc, il est fait donc, par l'Agence régionale de santé. Et donc eux prélèvent de façon aléatoire à la fois les eaux sur l'usine et sur les réservoirs également, beaucoup, sur le réseau de distribution. Hein, puisque l'obligation qui est faite à l'exploitant n'est pas seulement de fabriquer de l'eau potable, de produire de l'eau potable, c'est de la distribuer potable jusqu'au robinet des gens.
Donc on peut boire en toute confiance, on trinquera à la fin de la semaine, mais d'abord on va parler stockage et distribution et ce sera dans le dernier rendez-vous de demain. Et c'est déjà notre tout dernier rendez-vous de cette semaine à la découverte de la station de traitement de l'eau potable de Limoges installée à La Batide. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Luc Vialsèche qui est le responsable de cette station de traitement de l'eau potable. On a parlé justement du traitement à proprement parler, mais désormais il va falloir s'attaquer à l'autre phase, c'est le stockage et c'est la distribution. Ça aussi c'est un gros boulot. Alors comment ça se passe? L'eau va déjà être dirigée vers deux endroits différents ici?
Alors oui, on a la chance, nous, que la station donc, est sur le point de Limoges. Donc, en fait, toute la partie inférieure de Limoges, c'est-à-dire toute la partie centre-ville, est distribuée de façon gravitaire, donc sans énergie, sans pompage, avec deux gros réservoirs de tête, qu'on appelle, qui font chacun 10 000 m3. Donc, ils sont pleins. Donc, ça fait 20 000 m3 d'eau qui sont là, en attente de distribution, pour répondre donc à la demande.
Et qui sont semi-enterrés, donc ils se trouvent sur le site, hein, juste à côté du bâtiment.
Voilà, oui, ils sont enterrés. Alors, là, l'avantage, c'est que ils sont isolés, ils sont relativement cachés et isolés, donc c'est intéressant pour la température d'eau aussi, le fait qu'ils soient isolés. Et sinon, il y a effectivement tous les points où il y a distribué, et pour ça, il faut du pompage. Et donc, vous voyez là, donc on est sur une batterie de 9 pompes, et ces 9 pompes donc permettent donc notamment d'alimenter donc la tour qui est au-dessus de notre tête, donc la tour qu'on appelle réservoir 1250 puisqu'il fait 1250 m3 d'eau.
Ça veut dire 1250 tonnes?
Eh ouais, un mètre cube, ça fait une tonne, donc il y a du poids au-dessus de notre tête, ouais. Et donc cette eau-là donc, va servir à alimenter donc, les points de Limoges et notamment toute la zone nord. Et puis on a trois pompes qui permettent d'envoyer l'eau également sur le secteur de Beaubreuil pour les points hauts.
C'est vrai que certains se sont déjà peut-être demandé ce que c'était que ce grand bâtiment. On n'imagine pas forcément qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Il a pas le visuel d'un château d'eau traditionnel.
Oui, alors les châteaux d'eau, contrairement à l'idée un peu de tout le monde, le château d'eau, en fait, l'eau, elle est dans la partie haute du château d'eau et un château d'eau n'est pas plein dans son intégralité d'eau. L'eau, elle est vraiment en l'air. Et pourquoi? C'est simplement pour la pression, en fait. Un château d'eau n'est là pour permettre de stocker de l'eau à une hauteur suffisante pour que quand on ouvre le robinet chez soi, on dispose d'un peu de pression et que ce soit agréable pour prendre la douche. Et l'avantage par rapport aux pompes, c'est que le château d'eau, l'eau, elle est stockée en hauteur, donc elle est toujours disponible. Quand on est sur pompage ou sur des surpresseurs, en cas de coupure de courant, à ce moment-là, il n'y a plus de pression. Voilà, c'est l'avantage château d'eau. Et les châteaux d'eau, c'est vrai que traditionnellement, ils ont plutôt des formes cylindriques. Mais ici, sur l'usine, effectivement, comme on est sur une usine, on a une construction qui est un petit peu la cubique. Mais c'est vrai que la construction cylindrique, en fait, c'est simplement une répartition de charge qui est uniforme. Et c'est pour ça que la plupart des bassins sont plutôt de forme cylindrique.
Nous, on fait notre petite originalité, en tous les cas, ici. Alors, on va remonter justement pour voir un petit peu dans ces châteaux d'eau, comment ça se passe. Et on va d'abord passer par le hall, parce que là encore, on a beaucoup parlé de contrôle tout au long de cette semaine. Et là aussi, il y a des phases qui se passent dans le hall même du site.
Alors, dans le hall, en fait, on a notre centre de supervision. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire toutes les étapes de traitement, alors des eaux brutes, toute l'étape de traitement et tous les châteaux d'eau et toutes les stations de pompage et de relèvement, tout ça est supervisé, c'est-à-dire c'est contrôlé à distance par des réseaux de communication et puis des automates. Et donc on permet de voir dans le hall tout ce qui se passe et de prendre la main si besoin est, donc à distance pour mettre en route une pompe, l'arrêter, etc.
On va aller voir si tout se passe bien alors du coup.
Oui.
Donc là on arrive au centre de contrôle.
Oui, donc on va aller s'approcher un peu.
Donc, face à nous, je n'y comprends absolument rien, mais il y en a d'autres pour qui ça doit être un peu plus parlant.
Oui, ça a l'air complexe comme ça, mais avec un petit peu d'expérience et d'habitude, on y arrive bien. Donc en fait, là, on est sur le centre de supervision. Donc on voit différents écrans. Donc il y a un écran qui recense donc tout ce qui est alarme, un écran qui trace les courbes de suivi des principaux indicateurs, donc qui permet donc au pilote de voir d'un seul coup d'œil donc si tout va plutôt pas trop mal ou pas. Et puis donc sur les deux autres écrans, donc on a tout le process de l'usine qui est symbolisé ici. Et sur l'autre écran, donc tous les sites distants qui sont représentés. Donc vous voyez que donc lorsqu'on intervient sur un écran, par exemple ici, donc je clique là sur un donc sur un réservoir, donc automatiquement on a un zoom donc qui s'opère donc sur le site en question avec toutes les valeurs là du site, les hauteurs de niveau d'eau, les niveaux de rechloration, etc., etc. Et tout ça est enregistré et tracé sur courbe. Et donc ça permet donc à l'opérateur qui est là donc de vérifier tout ce qui se passe à la fois donc des eaux brutes, de stations de traitement et de tous les réservoirs, et de pouvoir éventuellement donc prendre la main à distance si besoin pour intervenir.
Bon, a priori tout va bien ?
Oui, tout va bien, il n'y a pas de catastrophe.
Bon alors, on va pouvoir filer au château d'eau pour terminer cette semaine passée ensemble ici. Eh bien, nous voilà arrivés. On a juste eu le temps de reprendre un peu notre souffle, hein, parce que ça grimpe un poil. Je ne sais pas combien on a monté, mais il y avait un peu de marche.
Oui, là on est au cinquième étage. Et si on avait eu le courage, on serait monté sur le toit. Il y a encore là 10 mètres de plus par l'échelle à grimper.
Et on a le courage, mais c'est le temps. Malheureusement, on va être obligé de s'arrêter là. Donc, bon, une belle vue en tout cas sur Limoges, hein, sur le palais des expos, notamment sur les réservoirs, hein, on l'a dit, qui sont également présents sur le site. On va peut-être reparler aussi, avant de reparler un peu de distribution, d'une autre phase qui est importante. C'est le chlore, on l'a un petit peu évoqué. On a dit que vous ne traitez pas directement au chlore, mais le chlore, vous en injectez quand même dans l'eau une fois traité, non pas pour nettoyer, mais pour vous permettre de conserver cette eau avec la qualité que vous lui avez donnée.
Oui, donc la désinfection, donc nous on l'a fait à l'ozone et avec les réacteurs UV, ça c'est pour vraiment traiter l'eau et la désinfecter. Par contre, l'obligation qui nous est faite, c'est qu'elle reste potable jusqu'au robinet des gens. Or, sur la partie réseau, hein, il peut se passer plusieurs heures, plusieurs jours entre le moment où l'eau est produite et le moment où l'eau est consommée. Et donc, il est bien évident que pendant ce laps de temps, il peut y avoir une recontamination là, possible à l'intérieur là, des réseaux, du fait de travaux, du fait d'un certain nombre de choses qu'on ne maîtrise pas forcément là nous-mêmes. Hein, il est nécessaire d'avoir un désinfectant qu'on appelle un rémanent, qui reste dans l'eau, c'est-à-dire qu'on met dans l'eau et qui est là, présent, et donc en cas de recontamination, donc est là pour préserver la qualité.
Alors ensuite, cette eau, elle va être distribuée. Il y a combien de points vers lesquels l'eau va être envoyée depuis ici ?
Alors, on a tout un maillage, hein. Il y a 1200 km de réseau. Donc c'est important, hein, quand je vous disais tout à l'heure, là les risques, il y a quand même 1200 km là, de réseau pour distribuer à peu près 200 000 habitants. C'est notre population, et donc pour ce faire sur le territoire, donc on a 18 réservoirs qui permettent de stocker l'eau de façon intermédiaire, hein, puisque il est important de stocker l'eau quand même au plus proche des gens, puisque les canalisations, ben on l'a dit tout à l'heure, un accident c'est vite arrivé, là des travaux, on casse une conduite, et donc pour limiter la rupture d'eau chez les gens et donc la continuité de service, il est important d'avoir des stocks localisés.
Pour terminer, on l'a dit, alors on a l'usage courant de l'eau, puis il y a la consommation, boire l'eau du robinet. Certains y sont encore un peu réfractaires, comment on peut les inciter à franchir le pas ? Il y a le prix, tout bonnement, souvent quand on parle du porte-monnaie, ça parle.
Alors là, effectivement, c'est un paramètre qui est super important. Nous, on a un prix de l'eau qui est à moins de 3 euros le mètre cube, 2,9 euros le mètre cube, assainissement compris. Hein, donc la part de l'eau plus la partie assainissement. Quand on compare à un prix de bouteille d'eau, ben là, il n'y a pas photo. Hein.
Je crois que c'est clair. Les derniers réfractaires seront sans doute convaincus. Bon, ben, nous, on va trinquer tranquillement et puis on va vous laisser continuer le boulot parce qu'on l'a dit, hein, c'est 24-24, ça ne s'arrête jamais ici.
Oui, effectivement, on est en mode de production continue avec un impératif qui est la continuité de service pour le bien de nos usagers.